CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Bonjour et bienvenue à Littéralement Vôtre pour une deuxième saison avec les mêmes animateurs que l'année passée, moi-même Roxane Gaudreau et Albert Bourassa. Allô Albert!
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, merci beaucoup!
Donc, écoute Albert, c'est notre deuxième saison, deuxième été de Littéralement Vôtre.
Dans une situation un petit peu différente cette année, je pense, par exemple.
Un petit peu différente, voulant dire complètement post-apocalyptique?
Ben oui, ça tombe bien, parce que l'année passée, si je me souviens bien, notre première émission, on l'avait faite sur la dystopie, c'est ça?
Oui, c'est drôle, on avait ouvert avec la dystopie l'année passée, puis là, ben, on est nous-mêmes dans une situation dystopique en ce moment, là.
Oui, c'est assez étrange. Disons que je m'ennuie un petit peu de te voir le visage, puis en ce moment, je vois une boîte de carton, donc c'est très différent.
Faut se le dire, c'est vraiment différent la radio à distance. On n'a pas la même chimie quand on se voit pas, mettons.
Non, c'est certain. Donc, si on a l'air un petit peu plus étrange que l'année passée, bien, c'est peut-être une petite période d'adaptation à ces nouveaux studios à la maison.
C'est ça. Bien, on espère éventuellement pouvoir recommencer à le faire en personne, mais pour l'instant, on est avec les moyens du bord, comme on dit. Écoute, c'est une belle saison qui s'en vient pour Littéralement Vôtre, Albert. On a plein de projets un peu différents de l'année passée.
Oui, donc l'année passée, on était allé un petit peu plus par thème. Cette année, on y va vraiment plus, je dirais, free for all, pardonnez mon anglicisme. Donc, on va avoir certains thèmes qui vont revenir, mais aussi des chroniques qui vont revenir de semaine en semaine. Donc, je pense que ça devrait être très intéressant. On a même un défi de lecture pour les personnes qui nous écoutent. Donc, on va dévoiler ça là, à la fin de cet épisode.
Excellent. Fait que là, pour tout de suite, là, on a un peu introduit l'émission. On va juste résumer un peu ce qui se passe. Là. Aujourd'hui, on va faire une critique littéraire du livre « Juliette ou les morts ne portent pas de bigoudi ». On va parler du livre « Ce qu'on respire sur Tatooine ». Puis on va introduire un nouveau segment un peu plus récurrent qui va être un peu plus les actualités littéraires. Là, on s'en doute, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en onde. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé pendant qu'on n'y était pas.
Exactement, puis on va discuter aussi un petit peu de comment on pense que ce phénomène, cette situation, va avoir un impact dans les prochaines œuvres qui vont sortir dans le futur.
En effet. Fait que là, on s'en va tout de suite en musique, puis quand on revient, on part en critique littéraire.
L'été est annulé, on se reverra au mois de janvier. Je passerai à compter les craques du plancher. Oui, l'été est annulé, et puis nos cœurs seront rouillés. On attendra le bon temps pour se serrer plus fort. Est annulé, soleil se montre le bout du nez. Mais enfin, on apprendra à respirer. Mais enfin, on apprendra.
De retour à Littéralement Vôtre sur les ondes de CFAC 88,3. Roxane, tu vas être la première critique de la saison et oui. Ton livre, ça s'intitule « Juliette où les morts ne portent pas de bigoudi ».
Oui, c'est un livre, un roman par nouvelle qui est écrit par Pénélope Mallard, qui est sorti tout récemment là, en 2020. Je saurais pas à quel moment exactement, je l'ai pas sur
donc,
moi.
Donc dans le début de cette année.
Dans le début de cette année, effectivement, il a été publié chez l'Évêque éditeur dans la collection Réverbération. C'est un, comme je l'ai mentionné, c'est un roman par nouvelle qui est très... c'est pas très suivi, c'est plus des tranches de vie ici et là. Dans le fond, on suit l'histoire de famille de Juliette qui part de la France pour venir s'installer à Rimouski, pour venir enseigner à Rimouski. Et on en apprend un peu plus sur sa famille, notamment les femmes de sa famille, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, et leur relation un peu étrange avec la nature, très environnementaliste comme vision. On parle beaucoup de la relation avec les plantes, on parle beaucoup de la relation avec la nature, on parle aussi du... Sans en parler directement, il y a beaucoup de deuil dans cette histoire-là. On peut suivre comme à quel point la relation avec la nature peut aider Juliette à vivre les pertes qu'elle a vécues dans sa famille, donc la perte de sa sœur jumelle, mais aussi comment sa tante a vécu la perte de sa propre sœur jumelle, puis et de son mari. Dans le fond, c'est okay. Un peu un roman fantastique sans l'être. Tu sais, tu sens que la spiritualité est très présente, mais pas, il y a pas de magie là. C'est pas un roman fantastique en tant que tel. C'est juste vraiment éclectique, un peu spirituel comme livre. J'ai bien aimé ça.
Mais là, s'il y a un lien qui est fait entre l'environnement avec le deuil aussi dans tout ça. C'est peut-être moi qui est un petit peu pessimiste, mais il me semble que la situation actuelle ne m'aiderait pas à passer au travers d'un deuil au niveau de l'environnement, parce que il me semble que ça fait juste mal aller.
Ben c'est pas une critique sociale de ce qui se passe au niveau de l'environnement. Là. C'est vraiment Juliette a une relation spéciale avec les arbres. Elle dit qu'elle les entend bourdonner, qu'elle peut leur parler.
Okay.
T'sais, les femmes de sa famille sont comme herboristes, très proches de la nature. Ça l'aide à comme rester groundée, là, mettons. J'excuse l'anglicisme.
Donc, c'est ce côté-là qui est un petit peu plus fantastique. Là.
Oui.
C'est le côté herbologie un petit peu. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est du chamanisme quasiment, non?
Je sais pas si on se rend là. C'est vraiment des touches comme si la vie... se vivait de manière très naturelle, très... pour Juliette, tout est très connecté ensemble. Là. Elle parle constamment aux fantômes de sa grand-mère, Momone. Et tu sais, on comprend que les morts nous quittent pas vraiment, puis qu'ils nous accompagnent un peu, comme tout ce qui est naturel autour de nous sont là, mais sans avoir de présence physique, mettons.
Et puis, l'impact du fait que ce soit écrit en nouvelle, ce livre-là, comment que ça vient apporter quelque chose de plus à l'histoire?
Ben, je pense pas qu'on aurait pu faire... que Pénélope Mallard aurait pu faire un roman suivi de cette manière-là sans que ça devienne complètement ésotérique. Là. Le fait que ce soit écrit par nouvelle, ça montre vraiment des petites tranches de vie un peu déconnectées. Ça fait que le fait que Juliette semble un peu déconnectée de la réalité est moins étrange. Vu que c'est des vignettes de vie, on sent moins comme l'atmosphère un peu fofolle, on sent plus la beauté de la chose. C'est très poétique. Sans okay. être de la poésie.
Est-ce que c'est des nouvelles qui sont longues? C'est des courtes nouvelles?
C'est très court. Chaque paragraphe, chaque chapitre a maximum 5-7 pages. C'est des histoires qui... Il y en a même de 2 pages. Il y en a qui sont très courtes. Chaque chapitre parle d'un personnage différent, puis est d'ailleurs titré par le nom du personnage dont il parle. Les personnages sont tous féminins, à l'exception de l'oncle Anatole et du père, qui n'ont pas de chapitre dédié nécessairement. Okay. La narration est toute féminine. C'est ça que j'apprécie.
C'est intéressant, ça.
Oui, j'apprécie beaucoup cette portion-là du roman aussi. Là. On sent... Mais tu sais, on parle un peu d'herbologie, d'herboristerie. On sent comme le pouvoir féminin là-dedans, là, les odeurs, tout ça. Historiquement, c'est un peu l'apanage des femmes. Mais on sent que là-dedans, elles se développent beaucoup. Somme toute, c'est un roman que je suggère. Il n'est pas très long à lire, à peu près un peu plus d'une centaine de pages. Écrit quand même gros. Là. Ça se lit bien. Ça se repose bien aussi. Tu peux en lire juste une partie avant de te coucher, le reposer, puis le reprendre quand l'envie t'en prend. Là.
OK. Et puis, toi, est-ce que c'est un livre, tu penses, que tu recommanderais à plusieurs personnes par la suite?
C'est sûr que je recommanderais plus à un public féminin, mettons, un public qui cherche un peu à se grounder, qui cherche un peu de poésie dans sa vie sans aller vers la poésie au sens propre.
Okay.
Probablement les adeptes de littérature sauraient apprécier la poésie de Pénélope Mallard là-dedans.
Et puis, elle, est-ce que tu sais c'est sa combienième œuvre?
Honnêtement, j'ai pas fait de recherche poussée sur l'autrice. Je sais qu'elle n'en a pas nécessairement sorti beaucoup. Donc, encore une fois, des femmes. Je pense que c'est un petit feel-good roman. Malgré que ça
traite de la mort. Est-ce que tu penses qu'il y a un aspect féministe qui est apporté, qui est développé durant ce livre-là? Est-ce qu'il y a un aspect plus féminin à la mort, au deuil?
Il y a définitivement un aspect féminin. Est-ce qu'il y a un aspect féministe et donc plus politique? Je ne penserais pas.
OK.
Somme toute, je le conseille. Il n'est pas très... Tu sais, comme je dis, il n'est pas très long, pas très difficile à lire. C'est une bonne œuvre qui fait du bien. Malgré que les thèmes sont parfois un peu plus difficiles, ça reste plein de positifs, là.
OK. Est-ce que ce serait à recommander à quelqu'un en période de quarantaine?
Oui. Clairement.
Oui? Parfait.
Donc, c'est déjà quand même beaucoup de temps qu'on parle du livre. Il faudrait qu'on parte en chanson.
Donc, allons-y en chanson et on se revient avec un autre livre.
Donc, on est de retour à Littéralement Vôtre pour une deuxième critique littéraire. Albert, tu nous présentes ce que toi, t'as pu apprécier comme livre durant le temps où on n'était pas là. Tu vas nous parler du livre « Ce qu'on respire sur Tatooine » de Jean-Christophe Réel. Oui. Dis-moi, Albert, comment t'as choisi ce livre-là?
Eh bien, en fait, ce livre-là, j'ai entendu parler de plus en plus de Jean-Christophe Réel dans les médias. Je l'ai entendu faire une couple, quelques poèmes. Je l'ai entendu réciter quelques fois de ses poèmes parce que cet auteur-là, c'est important de le mentionner, c'est aussi un poète. Il a publié plusieurs recueils de poésie, là. Le Margarine, Bleu sexe légoré, Les volcans sentent la coconote, La fatigue des fruits, La douleur du verre d'eau, Et si on s'éteignait demain, et puis plus récemment, Peigner le feu.
Mais donc, ces titres sont originaux, là.
Oui, donc c'est quelqu'un d'extrêmement coloré. Et puis, avec Ce qu'on respire sur Tatooine, c'est en fait son premier roman qui est paru chez Del Busso en 2018. Et puis, c'est aussi le livre qui a gagné le prix littéraire des collégiens en 2019. Donc, juste ça me donnait déjà le goût de le lire. Et puis, je dirais que son premier poème qu'il a publié dans Le Devoir, parce que maintenant, il a commencé à publier une fois par semaine un poème d'une colonne dans Le Devoir. Son premier, il l'a fait cet hiver, ça s'appelait « Fort comme des déneigeuses », pardonnez-moi. Et puis, c'était après une tempête de neige. Et puis, juste pour vous expliquer un petit peu l'imagerie derrière le personnage, et puis pour vous donner une bonne idée de sa plume, je vais lire ce poème-là, et puis après ça, je vais vous parler du livre.
On t'écoute.
J'ai perdu ma tuque, avec un ours dessus. Je regarde mes messages. Je vois un courriel du devoir. On aimerait que tu nous envoies un test, le genre de texte que tu nous enverrais si tu devais nous livrer chaque semaine un poème d'une colonne. Je leur écris « Pas de problème, j'ai le contrôle de la situation ». Je sors dehors, je commence à stresser. Un poème par semaine, pour qui je me prends? Je n'ai pas de baccalauréat, je n'ai aucune formation, je ne suis pas Louis Hamelin, Odile Tremblay ou Aurélie Langteau. Je suis un poète qui a perdu sa tuque avec un ours dessus. Il fait frette, je suis dans un parc sur le bord du fleuve. Mon père est à côté de moi, je suis anxieux. Je lui dis que je ne sais pas quoi écrire dans Le Devoir. Le travail, on en parle, l'amour attend une minute. L'amour, on le vit entre deux rires, deux conseils, deux coups de vent. Mon père a vieilli, il a maigri de la face. J'ai envie de lui acheter des hot dogs. Il fait vraiment frette. Au moins une vingtaine de petits oiseaux noirs se posent sur un gros sapin, près de nous. Mon père me dit, tu pourrais parler des oiseaux. On rit. Ouais, pourquoi pas? À tous ceux et celles qui n'ont jamais aimé la poésie, un poème sur les oiseaux, un poème aux oiseaux, qui ont fait le mauvais choix, qui ne l'ont pas eu facile, qui n'ont jamais lu le journal, surtout pas Le Devoir, qui ne déjeunent pas, qui ont 1, 2, 3, 4 enfants, 4 miracles avec le même linge à l'année, à tous les oiseaux, qui se sentent seuls, qui se sentent désespérés, qui ne réussissent pas à passer à travers la journée, qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Quel tunnel? De quoi tu parles avec ton poème? Pour qui l'hiver, c'est juste des problèmes à régler, des fenêtres mal isolées, des retards sur le loyer, des enfants qu'on aime mais qu'on ne s'aime pas, parce que tu veux juste manger, parce que tu veux juste payer les études de ta fille, parce que tu veux juste vivre simplement. Un poème à tous les oiseaux qui s'accrochent, à un fou rire, un clin d'œil, une tape dans le dos, à une chance, une entraide, un miracle gros comme un poing, un banc de neige. Ce poème est pour toi, juste pour toi, parce que je sais pas si tu y arriveras. Parce que mon père me regarde et me demande « Tu penses-tu tu vas y arriver? » Parce que je ne sais pas quoi y répondre. Parce que je suis là-bas, je suis déjà là-bas, dans le sapin, accroché au moins une centaine de milliers d'oiseaux, des petits oiseaux forts comme des déneigeuses qui n'en liront jamais mes poèmes dans ce journal. » Donc c'est quelqu'un de très imagé et puis qui s'ancre énormément dans la réalité pour écrire tout ce qu'il vit. Et puis ce roman-là,
c'est très imagé mais très terre à terre.
Oui, vraiment. Et puis ce roman-là, il est un petit peu autobiographique dans le sens où le personnage principal, il y a la fibrose kystique. Et puis Jean-Christophe Réel aussi. Donc, okay. ça parle un petit peu de cette situation-là, de cette maladie-là, au travers des yeux de l'auteur. Par contre, ce n'est pas 100% autobiographique. Là. Par exemple, le personnage, il travaille à un moment donné chez Super C. Jean-Christophe n'a jamais travaillé chez Super C. Il y a une sœur qui habite aux États-Unis, qui est complètement différente de sa vraie sœur dans la vie. Donc, il s'inspire de la réalité, mais il la transforme pour écrire. Puis, vraiment, là, ça, c'est un livre qu'on peut un peu moins prendre puis mettre de côté pour y revenir plus tard parce que c'est toute une histoire qui suit extrêmement bien, qui est super bien écrite. C'est encore une fois, là, ton livre il était poétique, mais celui-là aussi il est très poétique étant donné que c'est un poète qui l'a écrit, bien entendu. Et puis, vraiment, c'est chaleureux, puis tu ressens la douleur puis l'impact de la maladie sur le personnage. Mais c'est pas lourd comme lecture. Il y a plusieurs moments aussi où est-ce que je me suis retrouvé en train de rire parce que je trouvais que c'était complètement ridicule ce qui était en train de lui arriver. Donc, c'est une histoire extrêmement touchante et puis qui vient nous chercher pour cet homme de 30 ans avec la fibrose kystique qui habite dans un demi-sous-sol avec un colocataire édenté. C'est vraiment super comme livre. Puis j'ai aussi sélectionné un petit paragraphe que j'aimerais vous lire pour vous démontrer encore une fois là, toute la poésie derrière le texte. J'ai mal à un seul testicule. Je saute sur place dans ma chambre. Ça ne part pas, la douleur reste debout dans mon testicule. Esti, j'ai toujours quelque chose. Cette nuit, je pense avoir entendu une souris dans le plafond suspendu. Elle se promenait au-dessus de mon lit et semblait gruger un truc. Elle m'a empêché de dormir une bonne partie de la nuit. Je ne le dirai pas à Normand, de peur qu'il mette des pièges. J'aimerais l'apprivoiser. J'aimerais faire comme dans The Green Mile, la baptiser Monsieur Jingles et lui faire un lit dans une boîte à cigares. La souris vivrait plus longtemps que moi. Il faudrait que je la mette sur mon testament. Je lui lèguerai mon kit de chambre acheté chez Structube. Sur Internet, je vois la longévité des animaux. Je suis censé mourir avant bien du monde. La plupart des perroquets et des baleines vont encore faire le party après mon absence. Les hosties. Donc, on ressent un petit peu la détresse du personnage parce que il va mourir avant des perroquets puis des baleines. Puis, en même temps, l'espèce de fantaisie qui se fait de la petite souris qui habite dans son plafond, puis il veut pas le dire au propriétaire parce qu'il a peur qu'il tue la souris. Donc, c'est vraiment extrêmement charmant comme roman. Je le recommande à tout le monde. Là, je comprends pourquoi ça l'a gagné le prix. Et puis, j'ai aussi appris en faisant quelques recherches un petit peu plus tôt qu'il va potentiellement être adapté au grand écran, ce roman-là. Donc, vous allez peut-être avoir la chance de le voir au cinéma. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi, parce que c'est pas un livre où il y a beaucoup d'action, bang-bang. Comme je dis, il travaille au Super C. Puis, à un moment donné, il fait le lutin dans un centre d'achat pour le Père Noël. Mais ça devrait être quand même très intéressant, je pense. Puis, c'est très imagé comme roman. Donc, je le recommande à tout le monde.
Wow, c'est une belle critique que t'as fait là du roman. Moi, je me demande, Albert, au niveau comme plus technique, là on n'est pas ensemble, je peux pas voir le livre que t'as dans les mains. C'est-tu un livre qui est très long, qui est très difficile à lire? C'est-tu accessible quand même au niveau comme papier?
Écoute, moi, je l'ai sur une tablette, donc c'est un livre de 200 pages. C'est pas écrit super gros, mais ça se lit extrêmement bien. Là. Ça pourrait se lire en une bonne grosse journée de lecture. Là. Mais c'est pas super gros. Et puis, vraiment, là, c'est très accessible.
Puis moi, je suis pas encore passé en 2020 là, lire sur des supports électroniques. Je suis pas encore rendu là, mais avec la pandémie, je devrais peut-être m'y mettre.
Ben c'est quand même super intéressant. On pourrait faire un pour ou contre les tablettes électroniques dans une prochaine émission.
On pourrait en reparler, mais pour ce qui est des supports qu'on va préconiser maintenant qu'on est en quarantaine, tout le monde, on va en reparler après la pause musicale qu'on s'en va écouter à l'instant, Albert. Merci beaucoup pour ta critique.
Merci.
Ça démarre au quart de tour, la pensée fait des tours, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tambours. Le fond de l'air est lourd et tu dérives encore. Mentir pas permis, faiblir interdit. Sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie. Bye bye les gentils. Poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent. Passer les premiers frissons, passer le mur du con. T'as enfin pu dire non et tu l'as dit très fort. Mentir pas permis, faiblir interdit. Sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie.
Fatigue. la journée. C'est là où c'est rendu, c'est pas ce que j'ai voulu. Mais je sais plus qu'est-ce qui se passe, dis-moi toi le sais-tu. C'est là où c'est rendu, c'est pas ce que j'ai voulu. Mais je sais plus qu'est-ce qui se passe, dis-moi toi le sais-tu. Je sais plus qu'est-ce qui se passe, ça a l'air que toi non plus. On se retrouve-tu au parc ou au coin de la rue? On ira prendre une bière, s'oublier, s'oublier. Au moins on aura fait quelque chose de notre journée. On ira prendre de l'air, respirer, respirer. Au moins on aura fait quelque chose de notre journée. Respirer, s'oublier. 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 Respirer, s'oublier.
Et on est déjà de retour pour un dernier segment de Littéralement Vôtre. Albert, ça va vraiment vite, même à distance, enregistrer une émission.
Oui, même dans une boîte, ça passe très vite.
Écoute, il va falloir qu'on poste une photo de ton setup parce que les gens vont se demander pourquoi tu parles de boîte. Honnêtement, on va être obligé d'utiliser notre page Facebook pour ça.
Écoute, si c'est une raison de plus pour mener les personnes qui nous écoutent sur notre page Facebook, Littéralement Vôtre, vous irez liker ça. On va mettre une photo de nos studios d'enregistrement à la maison.
Mais là, on l'a mentionné déjà plein de fois, dont en introduction, on est à distance, on fait de la radio à partir de chez nous. C'est un peu étrange, on se le dit, mais c'est pas la seule chose qui est un peu étrange ces temps-ci. On n'apprendra rien à personne en parlant de la pandémie de coronavirus. Je pense que pas mal mondialement, on sait de quoi on parle. Ouais. Mais ça a quand même une influence énorme au niveau de la lecture, de l'écriture, de la littérature, de l'actualité culturelle. Tu sais, l'actualité culturelle particulièrement, là, la plupart des organes culturels sont présentement en arrêt complet.
Oui, mais il y a plusieurs,
la pandémie aussi.
Il y a plusieurs livres qui étaient censés sortir, avoir des sorties avec les médias et tout ça. Ça a été reporté. Donc, le monde de la littérature s'est aussi mis sur pause durant cette période.
Puis, paradoxalement à ça, c'est le meilleur moment pour lire, pour bien des gens, là. Tu sais, bien des gens qui avaient mis de côté un peu leur passion de la lecture pour le métro boulot dodo, là, qui ont repris les livres, se sont remis à lire. Les librairies ont jamais eu autant de commandes à distance que ça, puis l'achat de livres numériques a jamais été aussi haut.
Oui, on est quand même choyé, là, surtout en Estrie, parce qu'on a plusieurs bonnes librairies qui sont dans le coin, puis qui étaient ouvertes en ligne pour les commandes, puis qui faisaient des livraisons. Moi, j'ai commandé un livre, justement, à Granby durant cette période, puis un jour plus tard, je l'avais déjà reçu. Donc, j'ai été super impressionné. Donc, on rappelle, c'est important d'encourager les librairies locales, bien évidemment, plutôt que
Amazon. Mais oui, puis à Sherbrooke, si on a l'excellente GGC.
Oui, puis maintenant, c'est ouvert aussi, si je ne m'abuse. Donc,
oui, c'est ouvert.
Semaine,
on n'a juste pas le droit de toucher les choses.
Bon. Il va falloir mais regarder les livres avec les yeux. Se fier à la couverture. Hein? On dit rarement de faire ça, mais là, je pense que cette fois-ci, il va falloir le faire un petit peu plus.
Ben, je suggère également fortement le site Les Libraires pour s'informer avant d'aller ramasser en magasin, si on doit aller ramasser en magasin. C'est vraiment il y a vraiment des critiques, des opinions, puis tout ça, qui peuvent nous aider peut-être à se faire une idée sur le livre, même si on ne l'a pas dans les mains puis qu'on peut pas le feuilleter, là.
Ouais.
Mais outre ça, moi, j'ai vraiment hâte de voir, Albert, tout ce qui va sortir d'œuvres écrites pendant la pandémie. Parce qu'on s'entend, les auteurs, c'est rare qu'ils vivent de leur plume, là. Souvent, c'est des gens qui ont un day-to-day job, qui font autre chose. Donc là, présentement, heureusement, malheureusement pour eux, ces gens-là sont souvent en arrêt de travail, puis ont le temps d'écrire.
Est-ce que tu penses que dans les prochains mois, les prochaines années, on va avoir une surpopulation de livres, une surdose de livres qui vont parler du coronavirus? Ou bien tu penses que le monde va plutôt aller dans le contraire, ils vont vouloir s'évader de cette situation-là, puis aller plus peut-être dans du fantastique ou dans des situations qui ne parlent pas du tout de la COVID?
Bien, c'est sûr que je m'attends à ce qu'il y ait une quantité de livres de quarantaine qui sortent. J'espère que ça va avoir été une occasion pour certains de faire preuve de créativité puis d'écrire autre chose que sur la quarantaine, mais je m'attends à ce qu'il y en ait qui sortent. Je m'attends à une surpopulation de livres de toutes sortes puis une surpopulation de bébés aussi, je m'attends à ça aussi.
Un baby boom 2020.
C'est sûr que oui. On pourra regarder mes prédictions bientôt, là, mais je suis sûr que oui. Mais dans tous les cas, je suis pas mal sûr que ça va avoir inspiré les créateurs de ce monde.
Et est-ce que, ben, tu parles d'enfants, est-ce que tu penses aussi qu'on va revoir la manière dont les livres pour enfants sont faits un petit peu aussi, dans le sens où si cette situation-là vient à se reproduire, la littérature, c'est quand même un bon moyen de s'évader. Puis grandir dans cette période, c'est étrange. Tu dois rester à la maison. Puis j'imagine qu'en tant qu'enfant, avoir accès aux livres, c'est une belle manière. Donc, penses-tu qu'on va voir aussi une augmentation de la lecture chez les jeunes?
J'espère, honnêtement. Ça, c'est la prof de français en moi, là. J'espère que ça va avoir encouragé des jeunes à lire. Je crois à 1000% que tu te tannes un année de jouer à des jeux vidéo puis des images qui te donnent mal à la tête puis qu'éventuellement le livre devient une option tout à fait satisfaisante même si t'aimes pas lire à la base.
Et puis, vraiment, là, je pense que ça va être important de regarder à quel point cette période-ci va être aussi décrite dans le futur. Est-ce que on va en parler comme on parle des guerres dans le passé? Parce qu'il y a quand même certaines personnes qui ont fait cette référence-là et disent que c'est la première guerre mondiale de notre époque.
Il y a effectivement beaucoup de monde qui en parle de cette manière-là. Je sais honnêtement pas quoi en penser. Je pense qu'on a passé de recul encore pour pouvoir voir qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Mais je me sens comme je me sentais après le 11 septembre 2001, qu'on savait pas ça allait être quoi les conséquences, qu'on savait même pas si allait en avoir. Puis au final, c'est tout le monde qui a changé après ça.
Bien évidemment, dit à quelqu'un le 10 septembre 2001 qu'il va avoir autant de sécurité à l'aéroport après le lendemain, puis il ne croira pas. Donc, je pense que définitivement, il va falloir se mettre à s'habituer à ce qu'il y ait des personnes qui se promènent dans la rue avec des masques de manière de plus en plus fréquente. Puis, je me demande aussi à quel point ça va être reflété dans la littérature, cette situation-là, ce changement-là, parce que on est quand même capable de bien décrire une situation où est-ce que, si on fait référence encore une fois au 11 septembre, on passe à la sécurité d'un aéroport, puis c'est plus compliqué, on comprend le contexte. Mais du jour au lendemain, est-ce que dans les livres, soudainement, les personnages vont porter plus de masques, est-ce qu'il va y avoir des descriptions de masques dans les livres parce que ça va être rendu un vêtement qu'on met à tous les jours, exactement. Donc, comme on décrit une sacoche, on décrirait le masque d'une personne. Est-ce que on va en venir à ça aussi bientôt, dans un futur proche?
En tout cas, on s'attend à ce que ça amène des changements dans le monde littéraire, tout ça aussi, comme dans tout le monde au complet. On n'a plus beaucoup de temps, Albert, mais dis-moi, on a quand même essayé de trouver... d'essayer de mettre en valeur des œuvres qu'on aurait manquées entre les saisons de Littéralement Vôtre. T'en as sorti deux cette semaine pour nous. Peux-tu nous en parler?
Oui, bien évidemment. Deux œuvres. Bon, la première, je pense que tout le monde en a entendu parler un petit peu. C'est un auteur chouchou de la région de l'Estrie, David Goudreau, qui a sorti chez Stanké « Ta mort à moi ». Donc, c'est sorti cet automne. Est-ce que tu l'as lu?
Ben oui.
Tu fais partie du tout le monde.
Oui, je pense que
ben écoute, même encore aujourd'hui, là, si tu vas sur le site des libraires, il est encore dans le palmarès, ce livre-là. Je pense que...
Mais je comprends pourquoi il est si bon.
Ah oui, c'est un livre qui est excellent, qui est éclectique, qui pourrait être écrit par uniquement David Goudreau. Je pense que lui aussi, il a une plume qui est assez distincte, il a une plume qu'on reconnaît. Et puis, définitivement, là, en cette période de pandémie, ça permettrait de s'échapper derrière une belle histoire. Puis, je sais pas si tu
veux
faire un petit résumé de l'histoire.
Malheureusement, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps, mais on va sûrement en reparler durant cette saison-ci.
Oui, on va peut-être même essayer de l'inviter pour nous en parler, parce qu'on les aime, les écrivains et écrivaines de l'Estrie. Et puis, le deuxième livre, en fait, c'est plus un recueil, un petit peu un livre, c'est « Carnet de parc » de Véronique Grenier. Donc, Véronique, qu'on connaît bien à l'émission, qui est une de mes autrices chouchous.
On a déjà eu l'occasion de s'entretenir avec elle plusieurs fois.
Oui, donc c'est la seule autrice qu'on peut dire qui s'est entretenue plusieurs fois avec notre émission de radio. Et puis, encore une fois, le Carnet de parc, c'est un recueil qui, je pense, aide n'importe qui à passer au travers d'une période un petit peu plus difficile. Donc, en ce moment, si vous avez des difficultés un petit peu avec cette période-ci, ça se lit super bien. Vous pouvez bien sûr le commander sur le site des libraires. Et puis, vraiment, je le recommande à tout le monde parce que Véronique, elle a une manière de décrire les émotions comme nul autre, selon moi. Et puis, c'est vraiment un petit livre qui va venir nous chercher puis qui se lit super bien là, en cette période.
Wow! Effectivement, c'est à conseiller. Moi, je vais clairement me le procurer parce que je l'adore moi aussi. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, malheureusement. Écoute, Albert, c'est le temps qu'on s'en aille en musique une dernière fois avant la fin d'émission.
Oui, donc on y va en musique et au retour, on vous parle de ce qui s'en vient chez Littéralement Vôtre.
Joue ton reggae, man, que du reggae. Mets le son à fond, tu sais qu'on va tout cramer. Bye bye bye. Chante ton reggae, man, que du reggae. Dope roots and culture, ragamuffin style, yeah, yeah. Baisse ton reggae, man, que du reggae. Wine pour reggae, dancehall toute la soirée. Bye bye bye. Imagine-toi un monde où on écoute que du reggae. Une planète verte où tout le monde se raconte la vérité. Fraternité entre peuples prêts à tout partager. Un monde où on peut voyager, même sans papier. Oh, oh, yeah, we'll die, yeah, we'll tonti. Est-ce ma reggae, ton style, ouais, tu l'as oublié. يا خويا انا في الشارع تهزني وتحطني بعد تقولي بوب مارلي فديت من البلاد بتاعك في الحومة ديما ماشي زفر على البنات وديم في فمك سيجارو وديما تلوج على حويجة وديما تلوج على مشاكل فيك على روحك خويا اسمع الرقي بالعرض
Je connais déjà le résultat de l'élection J'ai voté pour la vérité sans poser de questions Tout le monde il est temps de passer à l'action On est plus fort quand on est entouré des autres J'ai continué de bouger sans jamais changer de cause oh, Ce qu'on fait de mauvais, ça peut suffire à nous enterrer tous Je préfère avoir un ami de plus Allez, venez dans ma bulle Pendant ce temps, le petit Babylone brûle yeah, yeah, Tu yeah, sais, yeah. mon amour est infini dans une relation de confiance Pour la musique et mes amis, je te la donne, son Tu donnes pas d'amour et tu finis dans une relation de haine Pour pas penser le même, raisonne, son Arrête un peu, je t'en prie Et laisse plutôt mon reggae confirmer son emprise Je ne t'invente rien, je t'aime Et je te promets, le monde ne sera plus le même What's up, son?
Imagine-toi un monde où on n'écoute que du reggae Une planète verte où tout le monde se raconte la vérité Fraternité entre peuples prêts à tout partager Un monde où on peut voyager Même sans papier Même sans papier Même sans papier
Quand on est entouré des autres
Joue ton reggae, man, que du reggae
Sans jamais changer de cause
Good. cramé, bye bye bye. Chante ton reggae, man, que du reggae. Dope roots and culture, ragamuffin styling.
Yeah, yeah, ton reggae, man, que du reggae.
Wine for reggae, dance for toute la soirée, bye 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 bye.
Je me sens faiblir quand tu me fais lire ce que tu reçois. Si tu veux partir, moi je veux partir avec toi. J'arrive à croire qu'on est déjà rendu là. Si tu veux partir, moi je veux partir avec toi. Dans un endroit où personne nous pointe du doigt.
Sous nos lits, mais sous notre ignorance. Avant de te connaître, je pensais vivre au paradis où tout le monde est honnête, bien ouvert des bras et de l'esprit. Mais non, le clan élargit sa clique. Derrière l'écran, on t'écrit ton nom dans ton pays. Je me dis qu'on vit parmi les rednecks d'Amérique. J'aurais beau vouloir changer la donne avec des mots, de la musique. On sera des bêtes de cirque avant longtemps. Étrange pour un jeune peuple aussi vieux, je veux d'abord du mal à vivre en noir et blanc.
En plein, radeau vide, ce qui reste d'espoir derrière nos voiles, nos rides. On s'envisage sans vergure, on se dévisage, se défigure. Ce que l'on est, de ce que l'on est, ce qui nous définit, nous défait. Noir ou blanc, mémoire, aux angles morts de l'histoire. Bûcher de l'un, artifice de l'autre, esclaves affranchis, des enclaves à franchir. À qui la faute? L'erreur se répète, l'humanité bégaye, l'évolution sans phare, j'ai le refrain sans rêve. Pareil, tous humains, tous d'ailleurs. D'ailleurs, une fois tombé, le turban et la croix. Il reste qui? Il reste quoi? On n'est pas ça, on n'est pas seul. On est de passage, de partage, presque rien. Quelques liens, rêves rasés, peuple écrasé. C'est ça, faut se rappeler d'où l'on vient, pour jamais y retourner. Partir, te départir de ces mots-là, de ces curés de ces mots-là, si t'es curé à ce point-là. À point ouvert, on part d'ici. À chaque pas, un nouveau pays. On va arrêter de s'en faire, on va s'enfuir.
Mais on va où pour avoir la vie en couleur? Voir clair sous nos bandeaux, crever nos dieux en douceur, entre leurs rêves et nos rives, ouvrir nos portes à la dérive, à l'étreinte, à l'avenir. Peu importe le cuir,
on va s'enfuir.
Peu importe la teinte,
vivant, vivace, sans laisser de trace.
Ici même la Vierge Marie a la peau blanche, comme on n'en trouvera jamais dans le pays qui aurait connu les anges.
De retour à Littéralement Vôtre. Donc, Roxane, on l'a mentionné en début d'émission, on a une émission qui est un petit peu plus spéciale cette année. Et une des choses spéciales, c'est qu'on va avoir cet été un défi de lecture pour les personnes qui nous écoutent. Donc, en fait, c'est pas seulement un défi, ça va être une analyse aussi d'une œuvre qui est une œuvre, selon moi, extrêmement importante. On va faire ça tout au courant de l'été. La semaine prochaine, ça va être le premier segment de ce qu'on va appeler notre cours de lecture à Littéralement Vôtre. Et puis, on va être avec la professeure Sarah Rocheville, qu'on a déjà reçue. Et puis, on va parler de « Les vagues » de Virginia Woolf. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
J'en ai déjà entendu parler, évidemment. J'ai eu des cours avec Sarah Rocheville moi-même. Puis elle aime beaucoup l'autrice, donc elle en parle beaucoup dans ses cours. Mais je ne l'ai pas lu encore, donc ce sera un défi de lecture pour moi aussi.
Évidemment. Et moi aussi, parce que justement, en fait, ce défi, je nous le donne à nous deux, mais je le donne aussi à n'importe qui voudrait nous écouter et qui voudrait aussi nous écrire sur notre page Facebook pour nous partager leurs commentaires et puis comment ça va dans leur lecture. Donc, vous pouvez déjà aller vous le commander si vous voulez faire le défi avec nous à partir de la semaine prochaine. Donc, on le rappelle, Les vagues de Virginia Woolf. Et puis, sinon... On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres critiques littéraires.